en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Solène Robin.
La première rencontre des académies européennes s'est déroulée les 22 et 23 octobre 2007 à l'Institut de France. Canal Académie retransmet les séances de travail des académiciens en grande salle des séances. Des académiciens venus de toute l'Europe. Lors de la troisième et dernière demi-journée de travail, vous pourrez entendre successivement les interventions de Marc Fumaroli, de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et de Jean Rossier, associé étranger de l'Académie des sciences. Retrouvons maintenant Marc Fumaroli.
Il me semble, d'abord, remarque que j'ai faite depuis quelques années, et il me semble que c'est un signe des temps, les rencontres internationales entre académies européennes se sont multipliées. Elles n'ont jamais eu jusqu'ici l'éclat, la complétude de ce qui se passe ces jours-ci à Paris, mais la plupart, comme la nôtre aujourd'hui, ont été l'occasion d'échanges lucides sur l'alarmante fragmentation de l'immense savoir contemporain, désorienté devant l'ampleur des questions d'intérêt général et vital qui se posent soudain à lui, sans que pourtant il puisse en abandonner la réponse à une nouvelle providence que serait la main invisible du marché globalisé. Parmi ces nouvelles questions, je ne vais pas en citer beaucoup, mais vous en avez déjà évoqué bien d'autres, je me bornerai à en citer trois qui, d'un commun accord, sont arrangés parmi les plus graves. D'abord, l'échec de l'enseignement de masse et le recul de la culture générale en Europe, et même de l'apprentissage des langues nationales, les dommages collatéraux induits par un développement devenu mondial sur la santé du milieu naturel et de la société urbaine, l'asservissement de la recherche fondamentale aux intérêts corporatifs de l'industrie et du commerce, phénomène menaçant en soi, mais encore plus redoutable en regard des progrès rapides des biotechnologies. Cette navigation à vue dans le brouillard conduit les académies européennes à serrer les rangs et à se consulter dans des formes telles que celle-ci. Nos académies sont des institutions anciennes, mais leur recrutement par cooptation les a préservées du nivellement trop fréquent dans les établissements d'enseignement. Le cloisonnement par spécialité étroite est dans leur sein moins poussé qu'ailleurs. Fortes de leur résilience et aussi de leur indépendance, elles ont donc commencé à se demander si, dans cette nouvelle conjoncture, que tout le monde sent grave, elles n'avaient pas ensemble à retrouver, à exercer un rôle d'éclaireur au service du bien commun et à se donner, par cet exercice et pour cet exercice, une visibilité beaucoup plus vigoureuse aux yeux des gouvernements et surtout aux yeux de l'opinion. Cet enhardissement récent et encore en bouton, si j'ose dire, les invite à une concertation interne et à une réflexion commune beaucoup plus ouverte et continue sur les questions contemporaines et pressantes d'intérêt général. Il les convoque aussi à se retourner avec un regard neuf sur leur propre histoire et à y trouver des raisons d'assumer aujourd'hui, leurs responsabilités nouvelles. Académie, le mot reste respectable, mais il est trop souvent associé à l'idée de rente d'honneur. À l'origine, c'était exactement le contraire. Le mot est réapparu en néo-latin au cours du XVIe siècle, ou même du XVe, dans la correspondance d'humanistes florentins. Il désigne des réunions amicales entre lettrés ayant en commun une culture encyclopédique, qu'ils se sont eux-mêmes donnés, très souvent, en étudiant les anciens dans le texte original, en les confrontant entre eux et en les faisant dialoguer avec leur expérience. D'emblée, ce mot grec, d'origine platonicienne, mais latinisé par Cicéron, s'est voulu l'antithèse des universités contemporaines. Les humanistes réduits, ou plutôt réunis, en académie informelle, s'en prennent souvent au savoir universitaire, compartimenté, figé, transmis d'autorité dans un latin barbare, émanant eux-mêmes de la civilisation italienne des cités et des cours, en pleine Renaissance, ils ont le sentiment d'être en phase avec son esprit de curiosité ardente et critique et son goût de la persuasion réciproque. La conversation civile de ces premières académies, même lorsqu'elle est érudite et savante, n'est pas réservée aux doctes patentés. Des princes tels que Laurent de Médicis ou Lionel d'Este y prennent part, leurs propres fils y sont admis, ils ne les auraient jamais envoyés dans les geôles de jeunesse captive que dénonceront plus que jamais au siècle suivant Erasme, puis Montaigne. Aussi le mot d'académie s'est-il vite étendu aux écoles privées que des humanistes, laïcs, du calibre de Guarino Guarini ou de Vittorino da Feltre, ouvrirent dans leur propre villa pour éduquer les jeunes gens appelés à exercer des responsabilités de cour ou de cité, sur le modèle et selon les méthodes libérales qu'imiteront au siècle suivant les collèges jésuites des capitales catholiques, et on sait le conflit constant entre ces collèges et les universités. Le savoir dialogique et éloquent tel que le conçoivent les humanistes est inséparable du savoir-vivre et de l'isonomie, ce mot très important, vie politique grecque, l'isonomie d'esprit libre, leur homo academicus, si j'ose dire, qui a trouvé une traduction française dans l'expression « l'honnête homme », s'est donc posé au XVe siècle en s'opposant à l'homo scholasticus, la tête pleine de savoir reçue et non la tête bien faite, aguerrie à l'expérience commune autant qu'à la pratique des livres. Cette antithèse, Erasme et ses amis humanistes anglais voulurent la réduire au début du XVIe siècle, en faisant d'Oxford, et cela reste aujourd'hui encore la grande originalité de cette université, une fédération de collèges-académies, ce qu'elle est encore aujourd'hui. En 1530, Guillaume Budet persuada François Ier de créer dans l'Université de Paris une académie de professeurs royaux. Elle finit vite par se détacher de l'université et prendre le nom de Collège Royal, puis de Collège de France. Près de trois siècles plus tard, en 1809, Wilhelm von Humboldt voulut à son tour opérer une greffe régénératrice en créant à Berlin une université-académie, conjuguant étroitement enseignement et recherche, exemple vanté, envié en France par Ernest Renan, comme chacun sait, et qui a été très imité aux États-Unis, dont plusieurs universités, en fait, sont des universités humboldtiennes. Entre-temps, les académies avaient amplement fait leurs preuves. Qu'il ne suffise de citer l'Académie Philhellène du grand éditeur Aldemanus à Venise, dont un temps fait partie Erasme, ou l'Académie della Crusca à Florence, dont le vocabolario toscan fut le modèle du dictionnaire de l'Académie française, et surtout l'admirable système encyclopédique d'Académie royale créé par Colbert sous Louis XIV, perfectionné et complété par l'abbé Bignon sous Louis XV. C'est sous cette forme de cooptation libre, de coopération créatrice, et non dans la routine des universités, en fait, que la vie de l'esprit, la nouvelle science, les lettres et les arts modernes trouvèrent le cadre à la fois souple et vigoureux, stable et évolutif, qui convenait à leur fécondité. En même temps qu'était réapparu au XVe siècle l'antique mot d'academia, ignoré du néo-latin médiéval, avait surgi une expression nouvelle, res publica literaria, qui complétait ce que ce mot d'académie pouvait avoir de trop local. En effet, cette expression apparaît en 1417 dans une lettre de félicitations adressée de Florence par le jeune humaniste vénitien Francesco Barbaro au Florentin Poggio Bracciolini, qui venait de découvrir dans les bibliothèques monastiques du nord de l'Europe des manuscrits carolingiens d'œuvres antiques que l'on croyait perdues. calqué sur l'expression augustinienne « res publica Christiana », désignant l'Église universelle, le corps mystique du Christ, cette expression nouvelle embrassait à la fois un bien commun universel, la res publica, et en même temps le patrimoine encyclopédique des lettres humaines léguées à l'Europe par l'Antiquité gréco-latine, mais aussi la communauté civique, elle aussi supranationale, qui se donnait pour tâche d'augmenter ce patrimoine, de le renouveler et de le diffuser. Donc une citoyenneté européenne, et je pense que c'est ça qui est important dans cette histoire. Les préfaces d'Aldemanus, ces magnifiques éditions philologiques des classiques de la philosophie, des sciences de la nature et de la poésie antique, les présentent comme la bibliothèque de fond dont peuvent disposer désormais toutes les provinces de la République européenne des lettres. Et les garantissant par là, par cette multiplication, contre le sort des bibliothèques d'Alexandrie et de Pergame, dont la destruction avait entraîné une rupture de continuité dans l'histoire de l'esprit. Les correspondants d'Erasme, de toutes les contrées, le salue comme prince de la République des Lettres, et au siècle suivant, les correspondants de Nicolas Péresque lui donnent le titre, approuvé dans son dictionnaire par Pierre Bell, qui en fait un grand éloge, de procureur général de la République des Lettres. La correspondance entretenue par ces princes de l'esprit avec tout le reste de l'Europe, tout ce que l'Europe en tout cas comptait de savants, équivalait en effet à la cooptation et à la coopération d'une académie européenne siégeant en permanence. Quand on lit la correspondance d'Erasme et la correspondance de Péresque, c'est exactement le sentiment que l'on a, c'est qu'il y a en Europe une académie qui siège en permanence et qui collabore en permanence. En Angleterre, comme en France, en Hollande, en Italie, c'est d'abord le cadre d'académie privée et dans ce cadre-là que se produisit le saut de qualité en physique et en mathématiques que l'on appelle la nouvelle science. Attentif à cette révolution scientifique et correspondant avec plusieurs de ces académies, Descartes a toujours maintenu ses propres recherches dans une farouche indépendance. Néanmoins, dans le discours de la méthode, rédigé en langue vulgaire et publié à Leyde en 1637, après avoir énuméré les obstacles au progrès des sciences, la brièveté de la vie individuelle, la difficulté et le coût de la recherche expérimentale, il écrit « Je jugeais qu'il n'y avait point de meilleur remède contre ces empêchements que de communiquer fidèlement au public tout le peu que j'aurais trouvé et de convier tous les bons esprits à passer plus outre en contribuant chacun selon son inclination et son pouvoir aux expériences qu'il faudrait faire et communiquant aussi au public toutes choses qu'ils apprendraient afin que les derniers commencent ou les précédents auraient achevé et ainsi, joignant les vies et les travaux de plusieurs, nous allassions ensemble beaucoup plus loin que chacun en particulier pourrait le faire. » Et voilà une merveilleuse définition de la République des Lettres intégrant la science moderne à son encyclopédie. Dans la traduction latine d'Étienne de Courcelles, publiée quelques années plus tard en 1944 avec l'aveu de Descartes, le mot « public », que vous aurez remarqué, « communiqué au public », est rendu par « res publica literaria ». S'adressant en somme à la communauté européenne des bons esprits, comme à une académie permanente et en expansion, le philosophe en fait l'allégataire universel de sa méthode, comptant sur la communication généralisée pour que la recherche de la vérité bien conduite produise un effet cumulatif augmentant de génération en génération. Il est revenu à Voltaire, au chapitre 34 du siècle de Louis XIV, à la suite de son éloge de la science encyclopédique de Leibniz, de constater en 1751 l'effet produit, presque un siècle plus tard, par cette expansion communicative des Lumières. Il écrit « On a vu une république littéraire établie insensiblement dans l'Europe, malgré les guerres et malgré les religions différentes. Toutes les sciences, tous les arts ont reçu ainsi des secours mutuels. Les académies ont formé cette république. L'Italie et la Russie ont été unies par les lettres. Les véritables savants, dans chaque genre, ont resserré les liens de cette grande société des esprits, répandue partout et partout indépendante. Cette correspondance dure encore. Elle est une des consolations des maux que l'ambition et la politique répandent sur la terre. Ces maux, Voltaire, comme nous le savons tous, les a combattus avec la verve, avec l'audace, la ruse, le sens aigu de la communication que nous savons, sachant pouvoir compter chaque fois sur la solidarité d'une République européenne des lettres qui, effectivement, l'appuyait. Il était trop sceptique sur la nature humaine pour croire qu'il pouvait supprimer ces maux. Du moins, a-t-il puissamment contribué à en rejeter un certain nombre au banc de la civilisation, à les faire condamner en principe, ce qui est déjà beaucoup, ajoutant ainsi au bien commun universel. Il n'a pas hésité à s'exposer à la disgrâce et à la vengeance même de Frédéric II pour avoir osé tourner en ridicule le despotisme pédant, insultant pour la liberté et l'égalité académique, que, pour complaire au roi, Maupertuis imposé à l'Académie de Berlin, fondée par Leibniz. Honnête homme, ayant homo academicus, si j'ose dire, ayant de grandes clartés de tout, Voltaire, philosophe, a pressenti que l'excessive spécialisation, où Nietzsche verra à son tour le vice où est tombé, même à l'université humboldtienne, une grande critique de Nietzsche dans des textes que tout le monde connaît parce qu'ils ont été souvent publiés ces dernières années en français, pourrait paralyser ce que Descartes appelait le bon sens et que lui-même appelle l'esprit. C'est un mot très voltairien. Ils entendaient par là l'un et l'autre la capacité commune aux vrais lettrés et aux vrais savants de sortir de sa spécialité pour juger, écrire et agir en vue du bien commun. Pour Voltaire, le propre des académies de la République des Lettres était bien de ménager aux bons esprits l'espace de liberté de travail, de conversation, où le bon sens désintéressé retrouve ses chances. En leur temps, Renan et Valéry, au titre d'académiciens, mais aussi de citoyens de la République européenne des Lettres, de ce qu'il en subsistait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ont travaillé à mettre en œuvre dans le sillage de Voltaire, ce que Valéry a appelé une politique de l'esprit à l'échelle de l'Europe. Cette idée n'a rien perdu, au contraire, de son actualité et de son urgence, même s'il s'agit aujourd'hui en Europe de se montrer à la hauteur d'un monde globalisé. Dans l'aventure où nous sommes embarqués, la culture générale et le sens du bien commun, collégialement partagés dans les académies, tant littéraires que scientifiques, ont plus de chances d'indiquer les voies de la prudence et de la sagesse que les innombrables experts autoproclamés, consultés comme des oracles par les médias ou invoqués benoîtement par de puissants intérêts. Encore faut-il se faire entendre et mettre au service du bon sens les stratégies de la communication contemporaine. Sur ce point aussi, Voltaire, maître communicateur sur tous les registres de son temps, demeure l'exemple et le modèle. Il le fut d'autant mieux qu'il ne s'en déchargeait pas sur des techniciens. Lui-même orateur, comédien, poète, virtuose de la correspondance et de la conversation, il était l'incarnation de la République des Lettres en action. Je vous remercie.
Je remercie bien vivement M. Marc Fumaroli de sa belle communication. Si vous le voulez bien maintenant, nous allons entendre la communication de M. Jean Rossier, à qui je donne la parole.
Merci M. le Chancelier, Madame la Secrétaire Perpétuelle, Messieurs les Secrétaires Perpétuels, Messieurs les Présidents, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Nos académies européennes se réunissent aujourd'hui pour penser à leur rôle au XXIe siècle. Cette réflexion s'impose, car la prise de possession incontrôlée de l'homme sur la planète ne peut durer plus longtemps sans mener à une catastrophe. Le rôle des académies est essentiel pour y parer. En un demi-siècle, parallèlement à cette domination de plus en plus néfaste de l'homme sur son milieu, les neurosciences, nouvelles sciences du cerveau, sont apparues. Il s'agit d'une science encore jeune qui se doit de dire humblement « Nos connaissances des mécanismes cérébraux sont encore très parcellaires. L'homme domine le monde et ne sait pas comment fonctionne son cerveau. Quel paradoxe !» La fonction principale de notre cerveau est d'anticiper, de prédire et de contrôler nos actions. C'est le développement harmonieux du cerveau humain qui a permis à l'homme de devenir, depuis seulement quelques millénaires, j'insiste là-dessus, l'espèce dominante sur Terre. C'est notre cerveau qui a permis à nos sociétés européennes de créer cette république des lettres dont vient de parler Marc Fumaroli. Il est donc étonnant de constater que cet organe est toujours aussi peu compris, et ceci malgré l'explosion de nos connaissances en biologie. Le cerveau m'a toujours fasciné. Depuis mes études médicales à Bruxelles dans les années 60, j'avais été très tenté de devenir neurologue. La beauté de l'exercice du diagnostic neurologique, bâti presque exclusivement sur l'observation et l'interrogation du patient et de son entourage, me plaisait. Beaucoup d'entre vous ont lu « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Dans ce merveilleux livre de la fin des années 80, le neurologue Oliver Sacks décrit avec un talent littéraire digne d'un romancier des cas cliniques neurologiques. Dans ce livre, comme dans la réalité quotidienne de la neurologie de cette époque, la richesse du diagnostic est souvent en porte-à-faux avec la pauvreté des interventions thérapeutiques possibles d'alors. Si je ne suis pas devenu neurologue praticien, c'est en partie pour cette raison. Ce ne serait plus le cas aujourd'hui, car la neurologie est en train de changer rapidement. L'imagerie cérébrale permet de localiser avec précision les lésions. L'arsenal pharmacologique s'est considérablement enrichi. Et la neurochirurgie est devenue beaucoup plus élective et moins traumatisante. Si je suis devenu neuroscientifique, c'est avec l'espoir de pouvoir contribuer à l'amélioration des traitements des maladies neurologiques. Le terme neuroscience apparaît en 62, il y a 40 ans. Francis O. Schmidt crée le Neuroscience Research Program au MIT. La Société des neurosciences américaines voit le jour en 69. Elle compte aujourd'hui 38 000 membres. La Société européenne des neurosciences date, elle, de 75, et nous sommes aujourd'hui 18 000 membres. Ces chiffres sont énormes pour des sociétés savantes et traduisent bien l'importance aujourd'hui dans le monde des recherches sur le cerveau. Et toutes les académies européennes que vous représentez ont des neuroscientifiques réputés dans leur rang. Les neurosciences regroupent toutes les sciences qui s'intéressent au cerveau. Elles sont un effort plus global, pluridisciplinaire, qui réunit des biologistes, bien sûr, mais aussi des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des médecins et des ingénieurs, qui ensemble veulent étudier le cerveau. Pendant longtemps, l'étude du cerveau était sous-divisée en disciplines telles que la neurochimie, la neuropharmacologie, la neuropsychologie, la neuroanatomie, qui se différenciaient par des techniques et les méthodes utilisées. Ces distinctions disparaissent maintenant avec les neurosciences. Les chercheurs dans ce domaine ne se délimitent plus par des techniques, mais plutôt par les fonctions étudiées. Je suis aujourd'hui devant vous, chers collègues, le témoin de 40 ans de neurosciences. Il y a 40 ans, si l'on savait que le cerveau humain était composé de 100 milliards de neurones, que chacun d'eux communiquait en moyenne avec 10 000 autres, en construisant des contacts appelés les synapses, on ignorait tout des mécanismes de ces communications. Les neurones apparaissaient comme des câbles électriques, mais tous de couleur identique. On supposait que ces câbles véhiculaient deux messages importants, l'inhibition ou l'excitation. Grâce aux travaux menés par l'Académie suédoise et particulièrement par Thomas Högfeldt, à qui notre Académie des sciences vient de décerner sa plus haute distinction, la Grande Médaille, la nature des informations chimiques véhiculées par ces câbles a été caractérisée. Les câbles pouvaient alors être associés à des couleurs différentes, comme dans nos tableaux électriques. Pendant plusieurs années, au Collège de France, avec notre collègue Jacques Levinsky, j'ai participé à ces recherches en caractérisant les messagers chimiques utilisés pour la communication entre neurones. Ensuite, aux États-Unis, avec notre collègue Roger Guillemin, j'ai particulièrement étudié les endorphines, ces morphines endogènes produites par notre propre cerveau, importantes non seulement dans la perception de la douleur et son contrôle, mais aussi dans beaucoup des mécanismes cérébraux associés au plaisir et aux récompenses. Ainsi, si l'on devient toxicomane, c'est que l'application répétée de drogue va modifier durablement les mécanismes cérébraux conduisant à la sensation de plaisir. C'est à ce moment que je me suis rendu compte pour la première fois de l'importance de la plasticité cérébrale. Tout événement perçu, d'une manière consciente ou inconsciente, change notre cerveau. Il faut le savoir, et c'est le premier message que je souhaite faire passer dans cette conférence, notre cerveau se modifie tous les jours, il est extrêmement plastique. Les premiers neuroanatomistes nous avaient habitués à un cerveau assez immuable, avec des circuits qui, une fois installés, changeaient peu. Pourtant, la plasticité cérébrale est infinie, chaque expérience, consciente ou non, modifie notre circuiterie cérébrale. Cette plasticité cérébrale est utilisée par nos systèmes de mémoire. Chaque jour, de nouveaux souvenirs s'engrangent dans notre cerveau et l'engramme des souvenirs anciens ne disparaît pas facilement, vous le savez tous. Un célèbre patient, le mnémoniste, appelé ainsi, du psychologue russe Alexandre Luria, était incapable de se rappeler des listes de mots ou de chiffres, et ceci plus de 15 ans après les avoir vus pour la première fois. La capacité de nos systèmes de mémoire ne semble pas avoir de limite. Les nouvelles techniques d'imagerie viennent de montrer dans les 5 dernières années que cette plasticité cérébrale s'accompagne de modifications anatomiquement visibles. En voici un exemple. Il y a quelques années, une étude par résonance magnétique nucléaire, RMN, montrait que les chauffeurs de taxi londoniens avaient une augmentation de la taille d'une région du cerveau appelée l'hippocampe, et cette région est spécialisée dans la mémoire spatiale. Cette observation donc laissait penser que l'utilisation permanente de la mémoire des rues et des itinéraires avait un retentissement sur la taille de la région cérébrale concernée. Tout ceci aurait pu rester anecdotique si plus récemment une expérience, je vais vous parler d'une expérience, n'avait démontré clairement que l'apprentissage d'une tâche pouvait engendrer une augmentation de la taille d'une région du cortex. Des sujets d'une vingtaine d'années, sans expérience particulière, ont appris à jongler. La taille de toutes les régions du cerveau a été mesurée par imagerie, et après 2 mois d'entraînement, on a pu observer qu'une région du cortex visuel, V5, avait augmenté de taille. Cette région, située à l'arrière du cerveau, est spécialisée dans l'analyse visuelle du mouvement. Le jongleur regarde sans arrêt ses balles qui bougent. Et donc, 3 mois après cette expérience, on a remis les sujets pour étudier de nouveau la taille de leur cerveau et on a vu que cette région qui avait augmenté de taille avait repris sa taille habituelle. Donc la plasticité cérébrale est visible anatomiquement. Nous venons de voir que les techniques modernes d'imagerie parviennent à déceler ces modifications anatomiques. Mais elles permettent aussi de voir le cerveau en action. Lorsque vous suivez des yeux un objet qui se déplace, la région visuelle spécialisée dans l'analyse de ce mouvement, la même que tout à l'heure, va être activée. Les circuits neuronaux locaux vont montrer une plus grande activité électrique visible par les techniques électroencéphalographiques, mais aussi par une plus grande perfusion sanguine locale. Toute l'imagerie fonctionnelle moderne est fondée sur la détection d'une augmentation locale de la perfusion sanguine des régions cérébrales activées. Le cerveau a très peu d'énergie en réserve et toute activation cérébrale se traduit par une augmentation de la perfusion sanguine locale. Ces études sur la consommation sanguine du cerveau montrent que ce dernier consomme énormément d'énergie et ceci sans arrêt, même durant le sommeil. Notre cerveau utilise 20% du sang pompé par le cœur, alors qu'il ne représente que 2% de la masse du corps. Si la circulation cérébrale est arrêtée pour de brefs instants, par pression sur les carotides, ce jeu stupide du foulard, la perte de conscience est immédiate. En cas d'arrêt de la pompe cardiaque, tout le travail des équipes de réanimation sera centré sur le rétablissement le plus rapide possible d'une bonne perfusion cérébrale afin d'éviter une mort cérébrale. Tout récemment, en faisant le bilan de l'énergie consommée, le monde de l'imagerie cérébrale a réalisé, à sa grande surprise, que la quantité d'énergie utilisée par les tâches conscientes était très faible. Dans le bilan énergétique, au maximum 5% de l'énergie totale consommée est consommée pour des activités conscientes. 95% de l'énergie consommée irait à des tâches inconscientes. Une explication à cela, la maintenance du cerveau demande beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Le cerveau est un organe extrêmement structuré et ordonné. Pour garder cet ordre, il consomme énormément d'énergie. Cette structuration du cerveau a mis plusieurs années pour se construire. Le cerveau du nouveau-né est complètement immature. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années que le contrôle précis du mouvement sera réalisé et que le jeune enfant va acquérir un langage. La société va prendre en charge l'éducation de cet enfant qui va lire, écrire et penser. Le cerveau est maintenant formé, structuré et ordonné. Pour garder toute cette organisation, toute cette mémoire acquise, toute cette structure anatomique, les besoins en énergie sont énormes. Comme évoqué précédemment, 95% de l'énergie consommée irait aux tâches inconscientes. Nos structures cérébrales ne seraient jamais au repos. Pour conserver leur connectivité anatomique, les circuits cérébraux seraient sans arrêt en fonctionnement, mais d'une manière inconsciente. Marcus Reichle de l'Université Washington de Saint-Louis aux États-Unis vient de mettre en évidence ce fonctionnement permanent des circuits anatomiques qui ainsi serait renforcé par une utilisation continue. Comme l'a écrit Pierre Buzère, membre de notre académie, l'inconscient possède 1000 visages. L'inconscient des profondeurs, cet inconscient émotionnel et affectif qui ne doit pas seulement être réservé aux psychanalystes. L'inconscient cognitif, qui sous-tend les capacités apparemment sans limite de la mémoire humaine, et cet inconscient structurant qui renforce de façon permanente les circuits cérébraux. Les nouvelles méthodes d'imagerie couplées à la psychologie expérimentale de nos collègues Denis Le Bihan et Stanislas Dehaene permettent déjà d'entrouvrir ce monde inconscient aux explorations scientifiques. Tout ceci est le deuxième point important de cette conférence. Le monde de l'inconscient est immense et les neurosciences commencent timidement à l'explorer. Un mot sur une autre question centrale aux neurosciences, celle posée par la conscience. Francis Crick, le découvreur de la double hélice, aurait aimé à dire qu'en science, il faut s'intéresser aux grandes questions. Et la nature de la conscience en est certainement une. Les dernières années de sa vie, il avait proposé que le claustrum, une région située profondément au centre du cortex cérébral, serait le siège de la conscience. Le claustron est une fine lamelle de substance grise qui contient des neurones recevant des projections de l'ensemble des régions corticales et renvoyant ces informations à tout le cerveau. L'existence de ce nœud était l'argument principal de Francis Crick pour proposer que le claustrum soit le siège anatomique de la conscience. Crick avait cette idée simple. Pour étudier une fonction biologique, concentrez-vous d'abord sur son anatomie et sa structure. C'est ce qu'il avait fait avec l'ADN. La détermination de la structure de la double hélice d'ADN avait permis, un instant fulgurant, d'expliquer sa réplication et ainsi toute la génétique. Courageusement, il voulait faire la même chose pour la conscience. Francis Crick n'était pourtant pas un dualiste, séparant l'âme du corps, mais donnait curieusement l'impression de revenir à Descartes. La question de la conscience et sa localisation est importante, mais dans l'état actuel de nos connaissances du fonctionnement du cerveau et de l'inconscient, il me semble très réducteur de vouloir affecter une fonction aussi essentielle à une seule région du cerveau. Un jour peut-être du 21e ou du 22e siècle, un neuroscientifique sera parlé devant vous de la conscience dans un langage perceptible à tous les philosophes assis devant lui. Je voudrais terminer cette revue sur les neurosciences au XXIe siècle en décrivant un domaine de recherche très prometteur, les interfaces cerveau-machine, BMI en anglais pour Brain Machine Interface ou encore BCI pour Brain Computer Interface. Il y a 10 ans, qui pouvait espérer que nous construirions aujourd'hui des interfaces qui permettraient d'utiliser l'activité cérébrale pour commander des membres artificiels? Qui aurait pu croire que les activités électriques enregistrées à la surface du crâne, dans les régions de commande motrice du cortex, seraient utilisées pour piloter un curseur sur un écran d'ordinateur? Ces signaux électriques des neurones corticaux sont provoqués par la pensée. Une explication, il suffit de penser à un mouvement pour générer une activité électrique dans la région corticale qui contrôle ce mouvement. La machine qui sert d'interface enregistre ensuite ces signaux, les analyse par des algorithmes complexes et les transforme en signaux de commande reliés aux membres artificiels ou aux membres immobilisés des paraplégiques. Ces recherches font naître trop d'espoir aux malades, aux industriels et aux militaires pour ne pas les mettre en garde sur les difficultés qu'ils vont rencontrer et la dizaine d'années d'efforts et d'investissements qu'il va falloir consacrer avant d'arriver aux applications pratiques désirées. Le fauteuil roulant du paraplégique commandé par la seule pensée n'est pas pour demain. Ni la machine à écrire mentale qui écrira nos discours, ni la voiture qui se conduit toute seule sans volant, ni pour les militaires, l'avion piloté par la seule pensée du pilote. Tout ceci n'est pas de la science-fiction, mais bien des problèmes éthiques et techniques devront être résolus avant de rentrer dans le concret des réalisations. Ces programmes de recherche autour de cette interface cerveau-machine représente la quintessence des recherches pluridisciplinaires en neurosciences, associant mathématiques, intelligence artificielle, mais aussi éthologie, sciences de l'ingénieur, robotique, neurophysiologie et médecine. Ces programmes sont financés principalement par les militaires américains. Il existe un premier programme en France, celui piloté à Grenoble par notre collègue Alim Bedabid. Nos académies pourraient intervenir pour que ces programmes se développent plus en Europe. J'aimerais maintenant partager quelques idées sur ce que nos académies pourraient faire pour que la science en Europe se porte mieux. Il faut d'abord la financer plus généreusement. Il faut ensuite favoriser l'émergence des jeunes équipes sans fixer de thèmes de recherche précis. Il faut financer les recherches les plus originales en imposant aucun carcan administratif ni influence de la culture industrielle du moyen et surtout du court terme. La première initiative de l'European Research Council, IRC, présidée par notre collègue Fotis Kafatos, qui va parler cet après-midi, répond exactement à ce besoin. Dans le domaine des neurosciences, le premier appel d'offres du printemps dernier a été un succès sans précédent. 950 jeunes équipes ont déposé un projet. Il y a donc en Europe aujourd'hui au moins 950 groupes de jeunes neuroscientifiques capables de proposer des programmes de recherche originaux. Malheureusement, seules 16 de ces demandes pourront être financées cette année, ce qui donnera un taux de réussite de moins de 2%. Que faut-il faire ailleurs, alors ? Simplement revoir les priorités prévues dans les programmes cadres européens, redistribuer plus de moyens aux programmes de l'ERC et moins aux programmes qui imposent le mariage, parfois, je dirais souvent forcé, de la recherche industrielle avec la recherche académique. Il est illusoire de penser que des programmes qui fédèrent une vingtaine de laboratoires vont donner une plus grande compétitivité aux entreprises européennes. Il faut arrêter de vouloir faire l'Europe de la science avec la seule idée que la science va renforcer la compétitivité de nos entreprises. Il est vrai que la recherche industrielle est essentielle pour préparer l'avenir de nos entreprises, mais il faut inciter nos industriels à y consacrer plus de moyens. Mais, comme le dit souvent Gérard Le Fur, membre de notre compagnie, et aussi directeur général de Sanofi Aventis, cette recherche industrielle ne pourra s'épanouir que si la recherche académique européenne reste forte. Ce n'est pas en répétant à nos savants et chercheurs que la science doit doper la compétitivité de nos entreprises que par enchantement, toute la recherche européenne va se transformer en unité de profit. Les recherches finalisées sont très utiles quand leur programmation est claire et fluide et quand la répartition du travail entre plusieurs groupes est possible. Dans le cas des maladies neurologiques, cette programmation est beaucoup plus difficile. Comment construire un programme de recherche finalisé dans un domaine dont nous ne connaissons que peu de choses ? Cette particularité doit être prise en compte dans le cadre des grands programmes nationaux et européens sur la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs, pour trouver le médicament ou le vaccin qui va nous protéger contre cette maladie neurodégénérative, ont besoin de liberté. Ce qu'il faut encourager, ce sont toutes les recherches en neurosciences qui pourront déboucher, peut-être par hasard, sur une avancée magistrale pour comprendre et traiter la maladie d'Alzheimer. Je ne peux dans ce domaine qu'encourager tous les pays européens à laisser les savants libres d'orienter leurs recherches dans la direction qu'ils estiment la plus originale. Au fil de cette conférence, j'ai décrit ce que je crois être important aujourd'hui dans les neurosciences. En 40 ans, cette science a atteint sa maturité et se prépare à une croissance harmonieuse tout au long du XXIe siècle. Elle découvre aujourd'hui qu'elle est un peu nue, car rester trop longtemps assujetti aux concepts expérimentaux de la génétique moléculaire. Un gène, une molécule, un comportement, une maladie. Les neurosciences redécouvrent que la construction du cerveau est une affaire complexe qui demande la coopérativité de milliers de gènes, mais plus encore de facteurs extérieurs qui vont moduler l'expression de ces gènes. Ces facteurs extérieurs vont façonner notre cerveau tout au long du développement in utero, mais plus encore durant les premières années de la vie. Pour se construire, le cerveau, à la différence de tous les autres organes, a besoin d'être nourri, protégé et éduqué pendant au moins 15 ans par un environnement familial et social stimulant et généreux. À une époque où l'on parle beaucoup de la génétique et moins de la place de l'éducation, la lente construction du cerveau démontre l'importance de l'acquis tout autant que celle de l'inné. Je termine sur une note personnelle. Oui, grand témoin de 40 ans de neurosciences, j'ai fait le bon choix en 67. Oui, la science m'a rendu et me rend heureux. Oui, la science est source de bonheur, avec ce qu'il faut d'interrogation et de frustration pour entretenir le désir. La science est un espace infini de liberté.
Je remercie bien vivement M. Jean Rossier pour sa passionnante communication. Et avec la permission de M. Michel Zinc, je vous demande si, dans les quelques minutes qui suivent, vous souhaiteriez avoir un échange de vues à propos de ce dialogue entre les spécialistes des sciences humaines et les scientifiques que nous avions appelés hier de nos voeux et qui se nouent ce matin. Mais nous n'aurions que quelques minutes à consacrer à cela. Est-ce que, d'abord, M. Michel Zinc l'autorise ?
Oui.
Vous avez la parole.
Académicien Gamprelitze, Académie des sciences de chirurgie. Monsieur Rossier, je suis intéressé si ces recherches neurologiques sont conduites sur les niveau génétique, et quelle est votre opinion, votre vue sur la détection des soi-disant language genes appelés FOXP2?
Je ne voudrais pas rentrer dans des discussions trop scientifiques sur les gènes. Il est certain que lorsque l'on compare le singe et l'homme, il y a très très peu de différence. Très très peu de différence. Alors, ce qui est intéressant, c'est de trouver, bien sûr, des gènes qui soient tout à fait spécifiques de l'homme. Et le FOX n'est pas un gène tout à fait spécifique de l'homme. Peut-être qu'il a été modifié chez l'homme pour nous permettre de parler. En fait, pour l'instant, comme vous avez pu voir dans mon discours, la génétique, c'est essentiel. Mais ce n'est pas tout. Et des tares, ce qu'on appelle des maladies génétiques, sont en fait souvent un avantage. Je donnerai le cas de la malaria. La malaria, c'est donc cette maladie qui fait que vous avez dans vos globules rouges quelque chose, un parasite qui pousse et qui tue vos globules rouges. Et donc en Afrique, c'est un fléau. Et en Afrique, il y a une population qui s'est développée, qui a un gène, et le globule rouge, il est différent. Et ce globule rouge, il résiste aux parasites de la malaria. Donc cette mutation protège contre la malaria. Par contre, si avec cette mutation, vous voulez monter au sommet de l'Everest, vous allez mourir tout de suite parce que votre globule rouge ne résiste pas à une diminution d'oxygène. Et il suffit d'avoir une diminution d'oxygène pour que vos globules rouges, ils éclatent et ils meurent. Donc, ce qui peut être vu comme une tare génétique, vous ne pouvez pas monter au sommet de l'Everest, est en fait quelque chose qui vous protège d'une maladie. Donc c'est très très difficile de relier un gène avec une maladie. Faut-il corriger les gènes ? Dans des questions éthiques très importantes, moi, je ne suis pas tellement d'accord. Mais c'est une opinion personnelle.
Merci beaucoup. Nous pouvons entendre une autre question. Monsieur Marc Fumaroli souhaite prendre la parole.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, plus que d'intérêt d'ailleurs, votre magnifique communication. J'ai surtout retenu cette notion que vous avez introduite de plasticité du cerveau en montrant que l'exercice de certaines activités pouvait, en quelque sorte, augmenter les capacités du cerveau, le faire évoluer. Et il me semble que
il y a une dimension humaniste de ce que vous dites, à savoir que dans la tradition européenne, depuis l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, en passant par l'époque classique, s'il y a un art qui a été magnifiquement développé, lié à l'éducation, c'est l'art de la mémoire. Et je serais très curieux de savoir si les grands travaux dans nos domaines, le domaine humaniste, depuis Franz Yates, Marie Caruthers, Lina Bolzoni, sur les arts de la mémoire, à la fois comme principe d'invention de la pensée, mais aussi comme principe de communication avec autrui, ne pourrait pas être prise en considération par votre discipline, comme, évidemment, ces gens qui ont inventé les arts de la mémoire ne savaient pas comment fonctionnait le cerveau aussi bien que vous, mais manifestement, ils avaient une intuition plus ou moins obscure que l'exercice, que la discipline, que l'entraînement pouvait effectivement faire que des gens puissent interpréter des textes de façon plus raffinée ou se montrer en quelque sorte dans les échanges linguistiques beaucoup plus virtuoses que d'autres. Et il me semble que là, le lien avec l'éducation, avec les différentes méthodes d'entraînement que l'on peut proposer aux enfants pour que ils aient les meilleures dispositions de ce formidable organe que vous étudiez si bien, pourrait être un lien entre vos différents champs d'études et puis le nôtre.
La mémoire, c'est quand même extraordinaire de se souvenir de tout et d'arriver à pouvoir se ressouvenir d'un souvenir. Bon, on va parler de la Madeleine de Proust. Et l'exemple là est assez bon parce que on voit que ce que j'ai appelé l'inconscient des émotions et l'inconscient cognitif se retrouvent. Et le mnémoniste, par exemple, de Luria, qui était capable de se souvenir de listes de nombres extraordinaires, en fait, mettait soit une couleur, soit un sentiment sur chacun des chiffres. Et c'était avec cette façon de faire-là, en mélangeant son cerveau cognitif de l'inconscient cognitif et son inconscient affectif, qu'il arrivait à retrouver les choses. Et donc, toutes les techniques de psychologie expérimentale étudient cela dans les cas dans lesquels on apprend plus facilement, où les souvenirs reviennent mieux. Ce que je voulais dire, c'est que si nous ne souvenons pas de quelque chose, ce n'est pas parce que ce n'est pas là. C'est toujours là quelque part et il faut arriver à le retrouver. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Parce qu'il est plus difficile, en fait, d'éliminer un souvenir que de retrouver un souvenir. Et ça, c'est la grande difficulté. Je ne vais pas faire de comparaison idiote avec les disques d'ordinateur très célèbres où tout à coup on retrouve tous les fichiers. Mais c'est ce qui se passe. Votre souvenir est là, il est peut-être pas très apparent, et on peut peut-être le faire revenir. C'est un petit peu la cure psychanalytique qui fait ça également, et qui veut on fait revenir le souvenir, et puis on va le faire disparaître.
Vous venez d'entendre Jean Rossier. Il s'agit de la dernière communication présentée lors des séances de travail de la première rencontre des académies européennes. La rencontre était placée sous la présidence scientifique de Michel Zinck, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Retrouvons-le maintenant en grande salle des séances pour la présentation des conclusions générales.
Il m'appartient, ou que je reçois la lourde tâche de tirer les conclusions de cette rencontre si fructueuse et si chaleureuse. Je m'aperçois que je préside en même temps, c'est toujours dangereux, n'est-ce pas, ce pouvoir absolu d'avoir à la fois la parole et la maîtrise de la parole, mais enfin, j'essaierai de ne pas en abuser. Et la première conclusion qui s'impose à la fin de cette rencontre est que l'Institut de France a contracté à l'égard des académies européennes une grande dette de reconnaissance. Qu'elles aient répondu si nombreuses à son invitation, qu'elles aient rédigé avec tant de zèle et le plus souvent en français les observations qui ont alimenté les deux rapports de synthèse et les débats qui les ont suivis, qu'elles aient envoyé à Paris autant de délégués et des délégués d'une telle qualité, voilà qui nous touche plus que nous ne saurions dire. Et voilà qui nous conforte aussi dans la conviction que les académies sont bien vivantes dans l'Europe du XXIe siècle, puisqu'elles savent tisser entre elles un réseau d'amitiés savantes, condition de la respiration de l'esprit. Et voilà qui invite peut-être même à poursuivre ces rencontres, non bien entendu pour concurrencer des institutions comme l'UAI ou ALEA, mais peut-être pour débattre ensemble de la fonction et du fonctionnement de nos académies. Alors, par exemple, hier, Madame Angélique Layou a proposé de réfléchir sur le financement des académies, ce qui n'a rien de secondaire, puisque ce financement est la condition de leur indépendance et que les disparités entre elles sont considérables. Le rapport de Jean-Claude Casanova, l'exposé que nous venons d'entendre de Monsieur Jean Rossier, plusieurs interventions ont soulevé la question délicate des relations entre les académies, d'une part, les universités ou les organismes de la recherche, de l'autre. L'intervention hier du recteur Gérald Antoine, la contribution ce matin de Marc Fumaroli et la fin de l'exposé de Jean Rossier ont rappelé la responsabilité des académies face au problème de l'éducation, responsabilité parce qu'elles sont parfois les seules à avoir l'autorité et la liberté nécessaires pour rappeler des vérités difficiles à entendre par les princes qui nous gouvernent. Et c'est ce qu'a fait récemment à l'Institut de France, l'Académie des sciences morales et politiques, en publiant un ouvrage collectif très remarquable et très tristement vrai, « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse », avec un avant-propos conjoint de deux membres de l'Académie des sciences morales qui nous ont quittés presque en même temps, qui étaient de personnalités ô combien connues et respectées, les deux anciens premiers ministres, Raymond Barre et Pierre Messmer. Tout cela et bien d'autres choses, toutes ces questions, nous pouvons et peut-être nous devons les aborder ensemble parce que, comme l'a rappelé Karl-Heinz Stierle, l'idée de l'Académie est l'idée de l'Europe même, ou comme le dirait Marc Fumaroli, les académies qui sont des institutions locales n'ont de sens que réunies dans le grand ensemble de la République des Lettres. Tirer, comme j'y suis invité, les conclusions générales de cette rencontre paraissent à la fois nécessaires et superflues. Nécessaires parce que les réflexions et les discussions ont été si denses et si variées qu'il n'est pas vain de tenter d'en dégager les grandes lignes, à preuve la difficulté même de la tâche. Superflues parce que l'organisation même de cette rencontre, organisation dont je ne peux pas me plaindre puisque j'en suis le responsable, reposait sur deux grands rapports de synthèse et deux grands exposés généraux, tous les quatre si riches, si denses et si superbes que le travail est déjà fait et par de meilleurs esprits que le mien. À cela s'ajoute le fait que la véritable conclusion, ou plus exactement le sommet de notre rencontre est encore à venir puisqu'il est constitué par la séance sous la coupole et par les cinq discours que nous entendrons tout à l'heure sous la coupole sur le thème « Identité nationale au pluriel et universalité de l'esprit » qui correspond si bien à l'esprit précisément qui anime le travail des académies. Le thème général de la rencontre des académies européennes organisée par l'Institut de France, les académies dans l'Europe du XXIe siècle, pouvait paraître un défi et presque une provocation. Les académies ne sont-elles pas perçues comme le conservatoire de tradition ? Les académies ne semblent-elles pas vouées à l'académisme? Et hier, Carlo Ossola nous a expliqué que l'art académique, c'était très bien, mais enfin, on reconnaissait là la subtilité de son esprit. En gros, il y a tout de même une difficulté. Comment ces académies riches de leur tradition, comment ces académies suspectées d'académisme pourraient-elles se projeter dans l'avenir? Comment des institutions que leur histoire lie souvent à la revendication parfois jalouse d'une identité nationale pourraient-elles prétendre contribuer à l'édification de l'Europe de demain et y trouver une place? Et pourtant, les académies européennes, les académies en Europe, sont partout vivantes, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient récentes. Académie des sciences, elles sont aussi tournées vers l'avenir et aussi internationales que la recherche scientifique elle-même, comme l'exposé de M. Jean Rossier vient encore de nous le montrer. Académies à vocation historique ou philologique, elles opposent la richesse de la mémoire et celle des langues aux menaces de l'uniformisation et de l'oubli. Et richesse de la mémoire est bien le mot, puisque je viens d'apprendre que notre mémoire est sans limite, ce qui est un grand sujet de satisfaction. Académie réunissant des écrivains et des artistes, elles entretiennent la nouveauté perpétuelle de la création. Académie tout court, elle constitue une république de l'esprit qui ignore les frontières et tient à honneur la fermeté et la fragilité que donne l'indépendance à l'égard de tous les pouvoirs. Vision idéale, certes, et qui ne doit pas masquer les pesanteurs, les contraintes, les difficultés internes ou externes auxquelles toutes nos académies se heurtent. Telles étaient les réflexions qui étaient à l'origine de cette rencontre. Elles ont pris, vous le savez, forme autour de deux axes, les académies face à l'État et à la société, et les académies mémoire, recherche, création. Le premier thème, je le rappelle, invitait à examiner des questions comme celle de l'indépendance des académies face à l'État ou au pouvoir, comme celle du rôle de conseil joué par les académies, ou qu'elles devraient jouer, ou qu'elles pourraient jouer auprès des pouvoirs publics, et d'autres encore, les académies sont-elles bien placées pour jouer ce rôle de conseil? Dans le cas contraire, que leur manque-t-il? La sociologie des académies les rend-elle aptes à répondre aux questions de société? Et le rapport de Jean-Claude Casanova, hier, a montré, avec une audace tranquille, à quelle remise en cause de telles réflexions peuvent conduire. Le second thème devait conduire les académies à réfléchir sur leur activité scientifique, littéraire ou artistique, et sur leur vocation dans le champ qui leur est propre. Selon leur domaine de compétence, l'un des termes est mieux mis en valeur par elles que par chacune que les autres. Mémoire pour les historiens ou pour les savants et les écrivains attachés à la sauvegarde d'une langue, recherche pour les scientifiques, création pour les écrivains et les artistes. Cependant, les trois notions sont conjointement à l'œuvre dans tous les domaines et éclairent le rôle de toutes les académies au regard de la vie intellectuelle et artistique de leur pays. Les académies européennes sont nombreuses. Plus de 60 ont répondu à l'invitation de l'Institut de France, de son chancelier et des secrétaires perpétuels. Une rencontre d'un jour et demi ne permettait pas à tous leurs délégués de prendre la parole avec une ampleur à la mesure de l'importance de l'Académie qu'ils représentaient. Une succession d'allocutions de quelques minutes aurait risqué d'être répétitive, fastidieuse, d'interdire toute véritable discussion. Et c'est pourquoi je m'étais permis de suggérer la méthode qui a été suivie. Les académies ont pu exposer leur point de vue en envoyant à l'avance de courts textes, dont deux rapporteurs, un pour chacun des deux grands thèmes retenus, ont fait la synthèse, ce qui nous a laissé le temps pour des discussions au cours desquelles nous avons tous pu nous exprimer librement et avec une grande richesse. Il y avait, je l'avoue, dans cette demande de rapport préalable, un côté maître d'école pour lequel je présente à chacun mes excuses rétrospectives. Mais les académies invitées ont accepté de bonne grâce la règle du jeu et elles ont envoyé leur contribution avec un scrupule et une exactitude dont nous leur sommes extrêmement reconnaissants. La plupart ont même eu la courtoisie de rédiger ces observations en français. Leur choix s'est porté très majoritairement sur le sujet 1 au détriment du sujet 2, pour continuer à m'exprimer comme un rapport de jury du baccalauréat. Il n'y a là rien de surprenant. Il est plus naturel de parler d'une institution au regard de son rôle social que de s'interroger sur des notions abstraites. Mais ce choix est aussi paradoxal. Mémoire, recherche et création sont la raison d'être de nos académies. Elles n'existent légitimement comme institution que dans la mesure où elles remplissent ces missions. Les remplissent-elles mieux que d'autres institutions, sans prétendre même les remplir mieux, les remplissent-elles spécifiquement, différemment ? Telle est fondamentalement leur préoccupation et parfois leur inquiétude. Et même quand ils ne les affrontaient pas directement, les rapports envoyés par les académies ne pouvaient éviter de s'y référer. Et ils nous ont puissamment aidés à les aborder dans les deux synthèses qui ont été proposées, dans les débats qui les ont suivis, dans les deux libres exposés si profonds et si riches que nous venons d'entendre. Celui de Marc Fumaroli vient d'apporter une réponse profonde en opposant l'homo academicus à l'homo scholasticus. Et c'est peut-être elle qui peut le mieux nous guider. Mais n'anticipons pas. Les académies, je l'ai dit, nous en avons ici la preuve vivante, sont nombreuses en Europe. Elles sont aussi variées. Certains pays ont une seule académie divisée en classes. D'autres en ont plusieurs, parfois sur le modèle même de l'Institut de France, où se retrouvent, comme on sait, l'Académie française et puis les académies des inscriptions et belles-lettres, des sciences, des beaux-arts, des sciences morales et politiques, couvrant ainsi le champ de la création littéraire et artistique, de la pensée, de la science et de l'érudition. Certains pays ont une ou des académies nationales, tandis que le passé a légué à d'autres des académies régionales au départ, dont le prestige est reconnu soit par la sanction d'un organisme fédérateur, soit par un consensus officieux et d'autant plus flatteur. Certaines académies sont des compagnies restreintes, dont l'influence est morale, mais dans d'autres pays, et en particulier dans les anciens pays de l'Est, si je puis dire, l'académie est souvent l'instance dirigeante de l'organisme national de la recherche scientifique qu'elle englobe en son sein. Si de nombreux pays chargent les spécialistes au sein de leur académie d'étudier la langue nationale, parfois d'en affirmer la spécificité, l'Académie française, qui réunit écrivains, artistes, savants, penseurs, esprits éminents de tous ordres, et donne à tous mission de veiller sur la langue, constitue un cas qui n'est pas unique, mais qui est peu fréquent. Ces institutions diverses ont cependant en commun l'essentiel. Toutes sont soucieuses de leur indépendance à l'égard de tous les pouvoirs, une indépendance parfois nouvelle et souvent difficile à préserver. Une indépendance sur laquelle, comme il est juste, nos confrères anglais ont été les premiers à insister, épris de liberté comme ils le sont, à travers les interventions de M. Duncan Galley et de M. Robin Jackson au nom de la British Academy et de la Royal Society. Une indépendance qui est menacée dès que l'on aborde des problèmes brûlants pour la société, qui ont des enjeux politiques ou financiers considérables, par exemple la biologie. Une indépendance qui pose une fois de plus la question du financement des académies et d'un minimum d'indépendance financière. Toutes les académies considèrent que la libre cooptation de membres éminents, ou pour le dire autrement ou plus brutalement, que l'élitisme de leur recrutement est une garantie de cette indépendance. Une académie n'est pas un établissement d'enseignement et elle n'est pas en elle-même intégrée aux structures de l'institution universitaire ou de la recherche. Elle n'a donc pas à se plier à une politique et elle échappe à la sphère d'influence de tous les groupes de pression. C'est en ce sens, peut-être, que le système hérité de l'ère communiste des académies CNRS, si je puis dire, à côté d'avantages évidents, autorité de l'académie sur la recherche, influence assurée sur la politique de la recherche, disparition du risque de marginalisation, à côté de ces avantages, ce système présente des dangers. L'académie est institutionnellement liée à la conduite des affaires et donc au pouvoir politique, quel que soit son prestige, elle est d'une certaine façon une institution universitaire comme les autres, même si elle est au-dessus des autres. Institutionnellement, l'idéal pour une académie est de ne dépendre de personne. Et si elle se doit de coopter des membres éminents, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont éminents, c'est aussi parce que plus ils sont éminents, plus ils sont libres. Idéalement, un académicien n'attend plus rien. Et c'est pourquoi il n'est pas aussi ridicule qu'on dit que les académiciens soient rarement de tout jeunes gens. Outre que M. Dautray me rappelait il y a un instant que ce n'est pas une question pour même l'efficacité de la recherche d'être vieux ou d'être jeune, mais d'être bon ou d'être mauvais. Ça n'a rien à voir. Mais enfin, pour la raison que j'ai dit ça, il y a en principe une indépendance qu'apporte l'âge, liberté. C'est pourquoi aussi, ce n'est pas par conformisme qu'une académie a vocation à admettre en son sein des mérites déjà reconnus, non pas nécessairement reconnus par tous, ni reconnus par les canaux officiels, ni reconnus par le tapage des médias, mais des mérites qui sont d'une certaine façon reconnus, plutôt que de débusquer des talents qui n'ont pas donné encore leur pleine mesure, tâche qui revient à d'autres s'ils s'en montrent capables, par exemple en France, dans le monde de la recherche, au Collège de France. C'est dire que même des traits académiques qui sont souvent moqués ont leur côté favorable et leur utilité. Nous pouvons nous l'avouer, puisque nous sommes ici entre nous, mes chers confrères, dans les faits, cet idéal ne peut être qu'imparfaitement atteint. L'âge n'apaise pas toujours les passions, la gloire n'étanche pas toujours la soif de plus de gloire, et les académiciens feraient bien de toujours redouter que s'applique à eux le mot de Clémenceau sur la magistrature. Aucun magistrat en France, aucun magistrat n'est indépendant, sauf le premier président de la Cour de cassation, et encore s'il est déjà grand croix de la Légion d'honneur. Il n'empêche, constater la faiblesse humaine n'est nullement une excuse pour transiger sur les principes. Une indépendance sourcilleuse, une autorité qui n'est déléguée par aucun pouvoir, voilà ce qui, dans l'ordre institutionnel, devrait caractériser l'homo academicus, au sens où l'entend Marc Fumaroli et qui prend malicieusement à revers l'usage que Pierre Bourdieu faisait de l'expression. Mais cette indépendance et cette autorité, conférées par des qualités personnelles et par la reconnaissance des pairs et non déléguées de l'extérieur, ne peuvent exister, s'agissant au moins de la seconde autorité, dans la solitude. Elles ont besoin d'une compagnie, non que nous donnons comme de l'intérieur à l'académie à laquelle nous appartenons. Une compagnie qui a elle-même besoin de la reconnaissance des autres compagnies du même ordre et de l'agrégation à une communauté d'esprit qui ignore les frontières. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis. Non que les académies aient vocation à se retirer sur leur Aventin, et quand bien même elles le voudraient, elles ne le pourraient pas, puisqu'elles ne sont pas une thébaïde au fond du désert d'Égypte, et que leurs membres vivent dans la société, y exercent des responsabilités, et, s'agissant du monde savant, doivent se colter avec les tristes réalités universitaires et de la recherche. Aucune de ces réalités n'est épargnée à l'académicien parce qu'il est académicien, mais être académicien confère face à elle à la fois une distance et des devoirs. Et le danger est aussi, et peut-être plus encore, inverse. Il est, comme l'a souligné hier M. Rossi, que le pouvoir politique répugne à consulter des corps aussi indépendants et les laisse végéter dans la pauvreté et dans l'oubli. Mais les académies, en tant qu'institutions, n'ont de sens et de légitimité que si elles remplissent les fonctions qui sont les leurs dans l'ordre de l'esprit. Et d'abord, pour beaucoup d'entre elles, à commencer par l'Académie française, la fonction de défendre la langue. L'Europe entière est confrontée, heureusement, au multilinguisme. Les peuples qui la composent doivent communiquer et se comprendre. On l'a souligné à plusieurs reprises ici, depuis hier. Ce devoir n'inclut pas seulement celui de connaître les langues des autres, mais aussi de préserver sa propre langue et d'accompagner son évolution sans la laisser dégénérer. Il ne s'agit pas seulement pour chacun de préserver son identité et sa mémoire, mais de conserver intacte une acuité intellectuelle qui ne peut s'exercer sans l'exactitude de la langue. Comment apprendre la langue des autres quand on a de sa langue maternelle une notion floue et un maniement relâché? La défense de la langue est de l'ordre de la mémoire, mais elle est aussi la condition de toute création et de toute activité intellectuelle. Pas de défense, mémoire et illustration de la langue sans défense, mémoire et illustration de la littérature. Les académies le savent. Qu'elles associent le travail sur la langue nationale à celui d'éditer les monuments anciens de sa littérature, comme le font beaucoup d'académies en Europe, ou que leurs membres soient eux-mêmes des écrivains, comme c'est le cas, là encore, pour beaucoup, la plupart des membres de l'Académie française. Il est si facile d'accuser les académies de stériliser ou de rapetisser la création au lieu de la favoriser dans son ampleur et sa générosité. Il est si facile de prétendre qu'il y a antinomie entre les règles ou les usages d'une institution et la liberté de la création. Or, la fonction des académies est de favoriser au contraire cette liberté, et la réunion qui s'achève a montré que cette fonction, elle la remplisse. Car la vraie liberté, dirait encore Marc Fumaroli, est celle de la République des lettres. Et les seules bornes que s'impose cette liberté ou qu'impose cette liberté, les bornes de l'urbanité, garantissent de toutes les autres oppressions combien plus contraignantes. Aux académies de comprendre qu'elles ne peuvent justifier la liberté dont elles jouissent en tant qu'institution que par celle qu'elles garantissent dans l'ordre de l'esprit. Celles-ci en jugeaient parce que nous avons pu lire et entendre n'est pas aujourd'hui menacé. Les académies ne font plus régner l'académisme. Du moins, elles n'en ont pas le sentiment. Ce que les rapports mettent au contraire en évidence et ce que la synthèse de Dominique Meyer a si bien su nous montrer, c'est la continuité de la fonction créatrice dans tous les domaines où les académies étendent leur activité. Que la découverte scientifique soit de l'ordre de la création, la page de François Jacob que Dominique Meyer nous a lue au début de sa synthèse en était la plus admirable illustration. Qu'un mathématicien soit plus créateur que tous les créateurs, chacun en conviendra. S'agissant des disciplines historiques et de la quête du passé, l'affirmation paraît plus osée et peut-être moins convaincante. Et cependant, elle est vraie, là aussi. Le terme de création peut leur être appliqué et le doit. Il s'applique à ces disciplines d'abord dans le sens tout à fait général qui autorise à définir comme créatrice toute pensée et toute découverte scientifique faisant appel à une imagination rigoureuse qui anticipe et construit afin de pouvoir constater et démontrer. Et à cet égard, l'enquête sur les documents du passé est parfois analogue à celle sur la nature et sur le vivant. Mais elle s'y applique aussi de façon plus précise et plus spécifiquement associée à la sauvegarde de la mémoire et à la recherche du passé. D'une part, la création littéraire et artistique contemporaine ne peut faire abstraction du passé. Elle s'y réfère parfois spécifiquement et explicitement, en y puisant ses sujets et son inspiration, elle ne peut éviter de toute façon d'emporter l'héritage et de se situer par rapport à lui, alors même qu'elle ne veut connaître que la pure modernité. Dans tous les cas, elle se nourrit d'une idée du passé, qu'elle soit favorable ou non. Il faut bien que cette idée vienne de quelque part, il faut bien que quelque chose lui donne forme. Ou bien cette idée est le fruit hasardeux d'une imagination subjective ou la répétition paresseuse de l'opinion reçue, et elle est stérile, puisqu'elle ne fait que projeter dans le passé les représentations et les conventions du présent, ou bien elle est enrichie et modelée par des travaux savants qui restent dans l'ombre, qui ne prétendent pas relever eux-mêmes de la création, mais qui, directement ou par l'intermédiaire des connaissances générales qu'ils diffusent, peuvent stimuler la pensée et l'imagination. D'autre part, si tous les travaux savants ne relèvent évidemment pas de la littérature, il est arbitraire de leur interdire d'y prétendre au seul motif qu'ils sont savants. Cela a été un des paradoxes du XXe siècle finissant d'avoir élaboré une théorie littéraire qui, d'un côté, refuse de faire une différence entre un chef-d'œuvre de la littérature et un article de journal, ou de reconnaître à l'auteur une activité créatrice plus grande que celle du lecteur, mais de l'autre, interdit aux ouvrages critiques de prétendre à l'élégance, à la beauté, à l'émotion, et établit une coupure absolue entre ce que nous appelons, à l'imitation de nos collègues allemands, la littérature primaire, les œuvres, et la littérature secondaire, ce qui s'écrit sur les œuvres. Ces oukases masquent la réalité. De tout temps, les historiens ont été considérés comme des écrivains. Et parmi les plus grands écrivains de l'Antiquité, combien d'historiens ? Et faut-il exclure les essais de Montaigne de la littérature sous prétexte qu'ils sont un vaste commentaire de l'histoire, de la littérature et de la pensée antique? L'œuvre de nombreux membres passés et présents des académies européennes voués à l'histoire et aux lettres anciennes et de celles qui réunissent avant tout des écrivains montre qu'une continuité existe de la recherche érudite à la création littéraire. Les séparer par une frontière, c'est vouer l'érudition à l'inutilité, la création à la futilité. La République des lettres et la communauté scientifique n'ont jamais connu de frontières. Celles qui séparaient les pays d'Europe sont presque entièrement tombées. Faut-il, dans une Europe qui doit tout ce qu'elle a réalisé au cours des siècles et toute l'énergie créatrice dont elle dispose encore aux esprits savants qu'elle a su produire, faut-il hérisser de tessons de bouteille les murs qui séparent les diverses activités de l'esprit, faire des sciences, faire de la science, de la belle et libre science, à la fois un idéal obligatoire et une prison où il faut enfermer les déviants? Qui ne voit que l'imitation simiesque de la démarche scientifique des sciences de la nature et du vivant, là où elle n'a que faire, a déjà fait trop de victimes. Nos enfants. Nos enfants à qui les pseudo-sciences interdisent l'accès à la vraie science. Ces erreurs stérilisent même la vocation scientifique, trop rare aujourd'hui. Pas de vocation scientifique, encore une fois trop rare actuellement, sans un apprentissage clair et rigoureux de la langue. Pas de maîtrise de la langue sans goût de la lecture. Pas de goût de la lecture, pas plus que de mémoire ni de vie de l'esprit, si enfants et adolescents sont dégoûtés des lettres par des approches contraignantes, abstraites, datées et d'une niaiserie prétentieuse. Oui, notre rencontre a montré combien les académies ont conscience de devoir être ouvertes et créatrices. Le danger qui menacerait leur idéal intellectuel s'ils réfrénaient la libre création, s'ils se satisfaisaient des jeux savants de l'esprit et s'ils refusaient de les mettre au service du monde qui l'entoure sont, me semble-t-il, admirablement illustrés par le fameux et Un roman de Hermann Hesse, Le jeu des perles de verre, Der Glasperlenspiel, dans l'utopique Ordre de Castalli, la libre circulation entre toutes les sciences, tous les arts et tous les savoirs, les correspondances rigoureuses, nécessaires et inattendues, entre une équation, un dialogue de Platon, une symphonie de Mozart, un tableau de Raphaël, fonde la règle de ce jeu des perles de verre, activité suprême et désintéressée d'une élite parvenue à l'extrême pointe de l'acuité intellectuelle, mais en s'isolant du monde et en renonçant à toute nouvelle création, désormais interdite. Et on sait que le dernier maître du jeu, Josef Knecht, Joseph Vallée, écrit en secret des poèmes, ruinant ainsi cet ordre parfait et fragile, et qu'il finit par se suicider. Je ne souhaite le même sort à aucun des présidents, secrétaires perpétuels ou chanceliers des académies européennes. Ils ne le courront pas aussi longtemps que nos académies, ouvertes au souffle d'un siècle encore jeune, sauront inventer un jeu des perles de verre qui ne soit pas coupé du monde, mais qui au contraire l'enrichisse et qui se laisse enrichir et vivifier par lui, comme par la générosité et l'audace de la création. Merci à tous.
C'était la retransmission de la troisième séance de travail des académiciens lors de la première rencontre des académies européennes. Une manifestation sous la présidence scientifique de Michel Zinck, dont vous venez d'entendre l'allocution, précédée des interventions successives de Marc Fumaroli et de Jean Rossier. Retrouvez la retransmission des deux premières séances de travail de ces rencontres en libre téléchargement dans notre médiathèque.